Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Salve Regina. Paul et Rosemary avec vous pour un nouveau rendez-vous de Peuple du Monde. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est le carême, vivre le carême autrement.
Vivre le carême est souvent appréhendé comme une montée vers Pâques. Or, Raphaël Buise, prêtre du diocèse de Lille, invite à adopter le mouvement inverse. Commencer par descendre. C'est l'hiver. Les vignerons sont déjà dans les vignes, à retailler les cèpes. Il fait froid, la terre est verglacée. Ici et là, des petits tas de cendres attendent que la nature refasse son œuvre. Le mystère de Pâques commence par le carême et conduit à la Pentecôte. Quelques cendres nous préparent à des langues de feu, comme si l'Église voulait nous aider à passer de la nuit au matin, de l'esclavage à la liberté, des scandales à la grâce, de l'égarement à l'alliance, de l'inquiétude à la paix, de la solitude à la communion, des ténèbres à la lumière, du désamour à la réconciliation et finalement de nos morts à sa vie. Parce que c'est vrai que notre monde et nos vies ressemblent souvent à de vieux cendriers refroidis qui sentent la solitude et le tabac froid. Le carême est ce temps offert pour réactiver le feu et pour redevenir, on en a bien besoin, une église contagieuse qui communique sa passion de l'évangile, un enthousiasme serein, une joie de croire, l'amour qui brûle sans consumer, une vie qui est, nous le croyons, plus forte que la mort. Il faut descendre. Lorsque le bois semble avoir tout donné, quand nos foyers semblent s'éteindre, subsistent, mais en dessous, quelques braises ardentes. Sous la cendre, elle rougeoie encore. Bien plus longtemps qu'on ne le pense. Quand la nuit et le froid semblent gagner la partie, il est toujours possible, à partir d'elle, d'allumer un nouveau feu qui réchauffera toute la maison. Les cœurs aussi y prendront leur lumière. Magnifique symbolique. Sous la cendre qui marque nos fronts ce mercredi décembre, sommeil, le feu qui n'attend qu'à reprendre. C'est l'heure de repérer le charbon incandescent qui dort en nous, de veiller sur lui et de le maintenir chaud en nous, et d'appeler sur nous le grand souffle. Pendant ces 40 jours, il fera son œuvre. Cendre en nous les vieux pastiches sur Dieu, les expressions désuètes de la foi, nos regards jaunis sur les autres et sur nous-mêmes. Cendre en nous notre désespérance et nos tristesses. Il faut descendre. Là-dessous, quelques braises n'attendent qu'à faire renaître le feu d'une joie simple et profonde. Alors, changer de vie en décidant à la force des poignets de prendre de bonnes résolutions ? Nous ne saurions les tenir. Plus simplement, repérer les désirs enfouis et demander aux grands vivants de souffler sur eux pour les remettre en vie et nous donner au monde. Notre prière est difficile. Plutôt que de nous lamenter, de ne pas savoir tenir, descendre vers ce qui est possible, écouter notre désir et la voix du Seigneur qui, doucement, murmure en nous, revient. C'est de la braise sous nos cendres. Nos relations sont compliquées. Plutôt que de nous lamenter, de ne pas savoir aimer le monde entier, de ne plus supporter un tel, descendre vers ce qui est possible, écouter notre désir d'aller plus loin dans la rencontre des autres et entendre les voix silencieuses de nos frères qui nous disent « Tu sais, je ne suis pas tout à fait celui que tu crois. Viens donc me rencontrer. Cela, c'est de la braise sous nos cendres. » L'estime de nous-mêmes vient manquer. Plutôt que de nous lamenter et de nous enrouler dans la culpabilité, ou le sentiment stérile d'être des pécheurs incorrigibles, repérer les petits pas que nous pourrions faire pour mieux habiter avec nous-mêmes et laisser le Seigneur nous dire « Je t'aime tel que tu es. Quand tu l'auras compris, tente d'accorder ta vie à l'amour que j'ai pour toi. » Ça, c'est de la braise sous nos cendres. Le carême n'a rien d'un ramotanage de cheminée. C'est un temps pour descendre sous la cendre et y trouver l'incandescence enfouis en nous. Alors, dans la nuit de Pâques, qui ne se réduit jamais à la casse d'un calendrier, un feu nouveau naîtra au cœur de ces ténèbres que nous appelons communément la mort. Le Christ ne nous laissera jamais nous éteindre. Sous la cendre, il y a sa promesse.
François Esperey, prêtre orthodoxe, nous invite à vivre le carême comme une descente lumineuse vers la résurrection. Il nous explique cette inversion. Chez les orthodoxes, le carême est précédé par une période de 3 semaines au cours desquelles il est donné aux chrétiens d'avancer vers le désert, avant d'avancer dans le désert. Elle s'ouvre par le dimanche du publicain et du pharisien, et le verset qui est au cœur de la révélation de Jésus-Christ. « Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Il ne s'agit pas, à mes yeux, d'une invitation à l'humilité, mais d'une loi fondamentale de ce qu'on pourrait appeler la base spirituelle du chrétien. Et le carême est la période au cours de laquelle il nous est donné de comprendre cette loi en lui obéissant. Nous sommes en cela guidés par Jésus-Christ lui-même qui va s'abaisser le jeudi saint pour laver les pieds de ses disciples avant d'être élevé sur la croix le vendredi saint. Comme, encore plus largement, il s'est abaissé en étant semé en terre avant d'être élevé de terre pour attirer à lui tous les hommes. Est-ce donc pour apprendre à vivre de la grâce « cette loi du mouvement descendant », écrivait Simone Veil, « que Dieu nous offre cette sainte quarantaine ?» Le carême vient précisément nous enseigner cette loi que Simone Veil rend particulièrement explicite en évoquant le mouvement du levier au travers duquel l'abaissement conditionne directement l'élévation. Le carême nous introduit au mystère en vertu duquel l'homme doit s'abaisser pour élever Dieu. Et la 16 devient alors pour nous une initiation à la descente, comme le désert a été pour le peuple juif une initiation à la terre promise, et comme le cheminement vers la mort, en lequel consiste notre vie sur terre, constitue une initiation à la vie éternelle. Comment entrer dans cette économie inversée qui nous est si peu naturelle ? Quelques précisions sur le terme d'économie. Ce terme est utilisé en théologie pour désigner le plan de Dieu pour le salut des hommes. L'économie, ce sont en fait les moyens nécessaires au salut. En comprenant quelle est l'économie véritable et que c'est l'économie de notre vie mutilée, dévoyée, pécheresse qui est inversée. Nous avons donc le droit de tout élever à l'exception de nous-mêmes, notre prochain en l'aimant, notre monde en l'offrant à Dieu et jusqu'à Dieu lui-même en priant. Mais il nous est interdit de nous élever. Et réciproquement, nous avons le devoir de ne rien abaisser à l'exception de nous-mêmes. Ni notre prochain en lui parlant mal ou en parlant mal de lui, ni notre monde en l'arrachant à son Créateur pour en faire notre propriété, ni notre Dieu en le ravalant à une idole ou à une idée. Mais nous avons le devoir de nous abaisser pour entrer dans cette économie. Il est indispensable de la comprendre. Faute de quoi, notre ascèse construira Babel et non le temple. Et notre jeûne lui-même proclamera « Bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. » Alors que le Seigneur nous invite à chercher le trésor sous nos pieds et non au-dessus de nos têtes, puisque le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. Le carême est alors le temps favorable pour nous pour nous poser la seule question qui vaille. Où est notre trésor ? Il nous permet en effet, en nous dégageant des fausses richesses de ce monde, de commencer à mieux discerner les vrais. L'avantage du désert, c'est qu'il simplifie la chasse au trésor, en ne laissant à l'homme que les deux seules bonnes options que Dieu a disposées pour lui. Creuser pour exhumer le trésor et avancer pour trouver la terre promise. Le tout en écoutant résonner cette parole dont la langue hébraïque nous dévoile l'approche parentée avec le désert. Le carême serait alors pour nous le temps de la découverte du tout au cœur et au travers du rien. Comme il a été pour le peuple hébreu, le lieu de la découverte au-dessus de l'infini dénombrable des étoiles et en dessous de l'infini indénombrable des grains de sable. Pendant 40 jours alors, il nous est donné de comprendre que le désert est le trésor de celui qui cherche Dieu. Comment se libérer de l'emprise de tout ce qui nous retient d'avancer dans le désert ? Quel jeûne plaît à Dieu ? Quelle prière ? Quelle aumône ? Le critère de ce qui plaît à Dieu dans l'ascèse est simple et universel. Ce qui nous fait descendre est bon et ce qui nous élève est mauvais. Il revient donc à chacun de jeûner assez pour descendre de la satiété, mais en veillant à ne pas laisser l'orgueil s'élever. Sont agréés de Dieu le jeûne, la prière et l'aumône qui nous destituent de nous-mêmes pour lui permettre de régner. Et inversement, ne sont pas agréés les sacrifices au travers desquels nous cherchons à ériger notre sainteté, que ce soit pour les autres, pour nous-mêmes ou pour l'idée que nous nous faisons de Dieu. Au fond, il s'agit de suivre le Fils de Dieu jusqu'au bout. Ce choix n'exige qu'une seule chose, le secours de notre liberté pour permettre son accomplissement. De la même manière que la justice de Dieu semble avoir besoin de notre prière, sa volonté semble avoir besoin de notre liberté. C'est là un mystère que la descente du carême dévoile à celui qui s'y engage, au point où communique dès le début et jusqu'au bout. Nous sommes acteurs participants du grand drame de la mort de Dieu et de notre salut. Du premier jour du carême au grand silence du samedi saint, comme de chaque nouvel instant jusqu'au jour de notre mort, il s'agit encore et sans cesse de rendre notre vie dès ici-bas participante de la vie divine.
Jean-Guilhem Xéry nous parle de l'ascèse. Il nous propose de nous laisser accompagner pendant ce temps de carême par les pères du désert et plus spécialement par Siméon le Stylite. Et son ton alerte et plein d'humour nous invite à un carême dynamique. J'ai invité, écrit Jean-Guilhem Xéry, j'ai invité les pères du désert à se joindre à ma route, à notre route vers Pâques. Spécialiste de la vie intérieure, fondateur du monachisme de toute évidence, il constitue des ressources sûres. J'ai fait connaissance avec l'un d'eux, Siméon le Stylite. Pour être tout à fait transparent, je suis allée vers lui pour sa « performance », entre guillemets. On dit en effet de lui qu'il a passé plus de 30 ans en haut d'une colonne afin de vivre dans l'ascèse. À ma grande surprise, je n'ai pas trouvé un athlète extraordinaire, mais quelqu'un de très simple, équilibré et paradoxalement mesuré. Il m'a expliqué qu'au temps des pères, l'ascèse passait par un renoncement aux richesses, un retrait du monde, des vêtements minimalistes, des lieux d'habitation sans confort, est des moyens de fatiguer le corps, veille, jeûne et travaux pénibles. Mais attention, il n'y a aucun enjeu de performance ou de masochisme. Il recherche la juste mesure comme une condition favorable à la fécondité. Les pères utilisaient la parabole de la terre et de la semence par analogie avec le corps et l'esprit. La sève est nécessaire pour travailler la terre du cœur et la rendre apte à recevoir la semence de l'esprit. Mais deux écueils sont possibles. Négliger et exagérer la sève. La négliger, c'est rendre la terre impropre à être ensemencée et à produire du fruit. Et l'exagérer, ou pire, la considérer comme une fin en soi, est encore plus nuisible. Me sentant en confiance, j'ai demandé à Siméon d'être un peu plus concret. Il m'a recommandé de définir une stratégie de protection de mon intériorité, avec deux objectifs. D'abord, identifier ce qui peut polluer ma vie intérieure. Ensuite, mettre en place une moindre exposition à ces polluants. J'ai compris que, comme il existe des perturbateurs endocriniens qui modifient notre équilibre biologiste, il existe aussi des perturbateurs de l'intériorité. Je les appelle les PDI. Au XXIe siècle, ces PDI sont le bruit, les écrans, la pub, le gavage d'infos, l'hyperactivité, les appels téléphoniques et les SMS incessants, la pression de l'urgence, l'invasion digitale. Ils nous polluent intérieurement et comme tous les polluants, ils nous rendent malades. En matière spirituelle, la maladie abîme notre qualité de présence à soi, aux autres et à Dieu. Oui, la vie intérieure, c'est d'abord une affaire de présence. Siméon a insisté sur ce point. Il m'a conseillé la sobriété. Il m'a aidé à mieux chercher le nécessaire, la juste mesure, à m'alléger du superflu. J'ai vu que je ne partais pas de zéro en matière d'alimentation, de consommation, d'activité, de cinéma intérieur ou de relations. Mais si l'enjeu est de favoriser sa vie intérieure pour mieux accueillir la semence de l'esprit, j'ai de la marge. La vie spirituelle est comme une sculpture. Pour créer son œuvre, le sculpteur n'ajoute rien. Au contraire, il lui retire ce qui est en trop pour révéler ce qui était là, faire jaillir le fond. Peut-être sommes-nous invités à nous simplifier pour qu'apparaisse ce qui est en nous, pour aider notre être intérieur à refaire surface. Elle est probablement là la fonction de la sobriété.
Amis, chers amis auditeurs, merci pour votre écoute fidèle. À très bientôt pour un prochain rendez-vous.